toute première chronique Culture Queer.
Culture Queer, un regard sur les arts et le divertissement.
Alors, vous venez d'entendre, c'est la bande-annonce de Surveiller et Puni. C'est un spectacle où l'opéra, le chant, le mouvement, les paroles s'unissent pour raconter une histoire pourtant fort médiatisée, mais qu'on n'a pas vraiment compris ou connue, ou on n'a pas su comment ce que ça s'est passé et comment la personne qui a subi ça l'a vécu. Je parle donc de la violence subie pendant des années par l'artiste Safia Nolin sur les réseaux sociaux. Surveiller et Puni reprend plusieurs, en fait, c'est la... comme ça qu'on fonctionne, c'est les thèmes, pas les thèmes, mais les paroles, ce qu'elle a reçu de paroles haineuses qu'a reçu Safia. Et on replace ça dans un autre contexte qui aide à comprendre cet impact. Ce spectacle est un concept de Philippe Cyr. Le livret est écrit par Jean-Philippe Barry-Guerrard. Et je reçois les deux artistes principaux, parce que vous êtes comme une vingtaine, vous êtes 23 sur scène dans Tout et Partout, ouais.
Oui.
Alors, je reçois donc Safia Nolin et Debbie Lynch-White. Salut tous les deux.
Salut.
Alors, j'ai une tradition ici. On demande toujours à nos invités, quand c'est la première fois qu'ils viennent dans nos studios, quel pronom et quel accord on utilise, Safia?
Moi, c'est elle.
Et féminin?
Oui, féminin.
Même chose pour moi.
Merci de demander, c'est important.
C'est important de le faire, ouais. Safia, je vais commencer par toi. Comment vas-tu aujourd'hui?
Ça va très bien. Aujourd'hui, ben il faisait chaud, ça me plaît moins. Mais outre ça, je me sens de bonne humeur, là.
On a l'impression que tu...
Personne ne me croit.
Non.
Moi, je te crois.
Moi, je te crois.
Oui, moi
ben,
aussi. Okay.
Ben, moi, je vais le dire, je rencontrais souvent Safia au Café Les Arts ici
c'est
à Montréal.
Vrai.
Et à chaque fois, j'avais l'impression, que j'ai du fun. J'ai rencontré une personne heureuse.
Oui.
Et je t'ai vu dans un lancement de la programmation. Puis je t'ai dit, oh mon Dieu, je viens de retrouver Safia.
Et voilà.
Ben, comment tu vas, toi, Debbie?
Ça va mal. Non, ça va super bien aussi. Très heureuse de faire ce spectacle-là avec Safia, puis on a beaucoup de plaisir ensemble.
Ouais.
On se fait beaucoup rire.
Oui.
Et vous nous faites rire. Et ça, j'ai été surpris. Je ne m'attendais pas que j'étais pour rire à des moments tout à fait inappropriés, mais ça, j'imagine que c'était le but de l'exercice.
Oui. Sur la scène, il y a quelques petits moments peut-être qui peuvent être un peu drôle, puis tu sais, dans les insultes aussi, on se rend compte que les gens ont été créatifs parfois dans leurs insultes, puis tu fais « Oh mon Dieu! » Puis là, ça te décoche un petit sourire. Mm. Mais dans les loges surtout aussi, on passe du bon temps.
Alors, nous, on a décidé qu'on ne parlait pas des atrocités qui avaient été dites parce qu'on les retrouve sur scène.
Ouais.
Je pense que ça suffit. Et je ne veux pas non plus divulgâcher. Mais je vais quand même te demander, Safia, je pense que est-ce que tu as pris une distance? Parce qu'il faut l'avoir faite pour être capable de faire ce que tu as fait là.
Ben, je pense que oui, parce que c'est des trucs qui m'arrivent depuis quand même un petit bout maintenant. Puis il y a des années qui ont passé où est-ce que je reçois encore de la haine, là, j'en reçois moins. Puis c'est des vagues aussi, c'est s'il y a un événement, s'il y a un char qui brûle, par exemple, des affaires de même. Mais non, oui, c'est vrai que j'ai une petite carapace, un petit mur qui s'est installé entre moi et les gens.
T'es allé chercher les outils aussi, puis t'as travaillé, puis t'as consulté, puis tu sais, je veux dire, parce que c'était ça a été intense.
Ça a été très intense. Là, je veux dire, ça m'a fait faire une dépression. Je pense que j'ai souvent remis en question de faire de la musique, même de disparaître. Puis là, à un moment donné, je me disais, mais là, même si j'ai envie de disparaître, je vais bien aller en Abitibi vendre des fraises. Le monde, ils vont me reconnaître, puis m'haïr pareil. Fait c'est sûr que ça m'a créé une grande détresse, là. Psychologique.
Mais c'est vrai que par rapport à la question de la distance, c'est vraiment intéressant parce que dans le travail, Philippe et moi, entre autres, t'sais, je veux dire, on travaille avec une matière qui est ultra réelle. C'est que du vrai. C'est nos noms, c'est Safia et Debbie qui sont là. T'sais, moi, comme actrice, j'étais habituée de jouer des personnages, jouer des bonhommes. T'sais, je joue Sacha dans Platonov, je sais que Sacha, elle n'existe pas. On l'a automatiquement, cette distanciation-là. Alors que là, tout d'un coup, on était dans quelque chose de tellement vrai que Philippe et moi, t'sais, on recevait ça un peu en pleine gueule au début, alors que Safia, elle, avait comme une longueur d'avance par rapport à la distance de, sur ces propos-là. Tu sais, elle, il y a quelques années, elle, elle les a reçus en pleine gueule. Et là, c'était nous qui vivions ça. Puis il a fallu justement trouver c'est quoi la distanciation que ça prend pour être capable de jouer ça après, soir après soir. Mm-hmm. Et être dans le plaisir, parce qu'on s'entend que notre job, c'est pas non plus s'ouvrir les veines sur scène à chaque soir. Puis on l'a trouvé dans le travail, mais ça a été vraiment un enjeu à un moment donné là, qui a suscité beaucoup de discussions puis de réflexions de ma part, en tout cas, dans mon travail.
Moi, j'aimerais inclure Donald Bilodeau, qui est chroniqueur culturel ici. Donald, sans divulgâcher, hein, parce qu'il y a vraiment des beaux punchs.
D'accord.
Comment, toi, t'as reçu ce spectacle-là?
Ah, moi, j'ai reçu... au départ, j'appelais ça de la science-fiction. J'ai dit, non, Stanley Kubrick, es-tu ici? C'est pas possible. Parce que j'avais entendu parler, comme tout le monde, de ton histoire, mais je les connaissais pas, les insultes que t'as reçues. Tu sais, moi, je me suis déjà fait insulter quand j'étais jeune. Je me suis traité de tapette ou je sais pas quoi à l'école. Mm-hmm. Bon, ça m'est arrivé en 1977, là. Tu sais, c'est pas rien de nouveau. Mais de voir ça avec les réseaux sociaux aujourd'hui, et ce qui m'a le plus troublé, c'est de constater, au fond, là, le malheur des gens.
Ah oui.
Le malheur. Oui. C'est ça qui est dramatique. C'est pas seulement vous autres ou toi qui as reçu les insultes, ou toi qui en reçois, ou Ginette Renault, ou n'importe qui reçoit des insultes. C'est de constater la... Je dirais le malheur des gens et leur solitude.
Mm-hmm. Ouais, puis
parce que c'est pas un party qu'ils font eux autres, là. Ils sont seuls à la maison devant leur écran. Mais il faut être malheureux, mais c'est incroyable.
Mais c'est surtout, tu sais, moi j'ai beaucoup réfléchi à ça dans le travail de. Tu sais, moi il y a des gens que j'aime pas ce qu'ils font.
Ouais.
Dans la vie.
Moi aussi.
On en a toutes.
On en a tous.
Tu sais, je veux dire, j'aime pas. Ça m'accroche pas ce qu'ils font.
Exactement.
Mais jamais je ne ressens l'impulsion d'aller leur dire ou de leur écrire, puis tu fais, mais c'est quoi cette affaire-là qui te pousse à aller au bout du geste, là,
c'est ça.
D'écrire tes lettres, ta musique est de la marde.
Ouais.
Tu fais comme, moi, ça me traverse même pas l'esprit de faire ça.
Ben non.
Je suis comme, qu'est-ce qui fait que des gens
que tu t'abonnes à la page de quelqu'un que t'aimes pas déjà en partant.
C'est beaucoup de tristesse.
Moi, je pense qu'il y a un truc de la solitude qui est super important là-dedans, mais je pense qu'il y a aussi une façon de sortir de la solitude en bâchant.
Oui.
Tu sais, je veux dire, c'est scientifique, vrai. C'est prouvé. Tu t'entends mieux avec les gens quand tu as quelque chose de négatif à dire.
Ça crée une communauté.
Ça fait une communauté. Puis il y a des gens qui sont pas sur le party, mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui se tag, qui rit de moi, des trucs comme ça. Moi, ce qui m'a vraiment scandalisé dans cet exercice-là, que c'est sûr que ça va m'avoir fait tellement cheminer, c'est que après, j'ai eu d'autres vagues de haine. Puis pour vrai, à chaque fois que je reçois un message, pour moi, c'est comme si c'était l'intelligence artificielle qui l'avait générée, parce que c'est tout le temps la même chose. Il n'y a pas d'originalité à part dans le spectacle, parce que oui, on a découvert des trucs. Il y a des bonnes lignes. Mais c'est rendu juste... Je ne sais même pas si les gens ils se rendent compte que c'est de la haine. Je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que les gens sont repoussés dans des retranchements.
Ouais.
Ils ont peur, ils comprennent pas les gens qui sont différents, puis ils veulent se sentir moins seuls dans cette peur-là. Puis au lieu de s'informer, ils se mettent en gang pour détester des gens qui comprennent pas,
exact.
Je pense.
Il y a tellement de beaux moments dans cette pièce. Je vais quand même en souligner quelques-uns. Il y a une scène dans le bain.
Oui.
Et je vais le dire, quand vous vous garochez des spaghettis ou je sais pas trop quoi, c'est tellement drôle. Puis sur le fond, t'entends des insultes. Je me dis, mais regarde, ils ont du fun. Ces deux femmes-là, pourquoi c'est un problème qu'elles soient, on va le dire, enrobées, je ne sais pas si vous êtes
grosses. On peut dire grosses.
Vous êtes grosses, c'est ça.
On a fait buzzer les
micros. Grosses! Non, non, mais grosses, c'est un adjectif. Hein. Faut enlever
faut
le caractère
ça,
d'insulte. Là. On est grosses, c'est un fait.
Ouais. Mais je trouve, tu sais, moi, je regardais ça et on s'est dit, mon Dieu, mais pourquoi? Là, c'est là que tu comprends pourquoi les gens voient ça, juste parce que elles n'ont pas le corps des premières pages de magazine. Mmh. Moi, j'imagine les gars qui envoient des commentaires sont probablement gros, eux autres aussi.
Ah hein? Oui, oui. Hey, moi,
ouais,
j'ai
moi, en début de carrière, j'avais remarqué ça. T'sais, évidemment, j'ai vraiment pas reçu beaucoup de haine dans ma carrière. T'sais, j'ai un parcours différent avec ça que Safia. Mais au début, quand je suis arrivée dans l'unité 9, les premiers commentaires que je recevais, quand c'était grossophobe, j'allais voir les profils et la majorité, c'était des gros. Parce que c'est confrontant si toi, tu t'aimes pas et que
tu vois
t'es
quelqu'un...
pas bien dans ton corps, c'est confrontant de voir une grosse habillée en paillettes puis vivre sa best life dans un gala, tu sais. Fait que t'es... Puis c'est ça, c'est plus facile de lancer ça sur cette personne-là plutôt que retourner le miroir. Ah, non,
moi,
faire,
je t'haïssais dans ce show-là, mais c'est parce que t'avais un personnage haïssable.
Il était bon pour faire son bonhomme.
Mais tu sais, c'est ça. Souvent, il faut que les gens fassent un peu de réflexion sur eux-mêmes, je pense.
Vous restez avec nous, on continue l'émission.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Ben, on va passer, ça vous tente, je vous garde tout le monde ici, puis j'ai pas encore fait parler à Antoine Charbonneau de Mers, mais ça s'en vient. On va aller à Québec. Brian Saint-Louis est notre chroniqueur de livres. Brian, je sais que tu n'as pas eu la chance de voir le spectacle dont on a parlé, mais tu connais bien Safia Nolin quand même. Ah, Brian, t'étais pas
Brian,
branché.
Brian, il se plug les écouteurs. Ça arrive, des fois, un petit délai.
Alors, Brian, on va continuer. Son micro n'est pas ouvert. Allume ton micro, Brian.
Tout va bien. Il s'est démuté.
Alors, Brian, je voulais juste te demander, je sais que tu n'as pas vu le spectacle, il n'est pas allé à Québec encore, il s'en va chez vous au Trident, mais tu connais bien Safia. Comment tu réagis, toi, avec toute cette haine que certaines personnes reçoivent juste parce qu'elles ont un look différent? Mais Safia, tu n'es pas si différente que ça, Caroline.
Ouais, je suis poule. Je trouve poule.
Moi non plus. Je ne vais pas te faire de peine, là, mais t'es
ben
pas...
là, je me sens...
Brian, comment tu réagis à ça, toi?
Ah, ben moi, quand j'entends des belles initiatives de spectacles comme ça, je trouve ça toujours intéressant. Puis c'est sûr qu'il va y avoir énormément de questions. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'ignorance agressive. C'est un mot de société qu'on a présentement. J'espère toujours que le message de ce spectacle-là va arriver à se rendre à ces personnes-là, parce que c'est peut-être pas eux, justement, qui vont aller le voir, alors qu'ils auraient tellement besoin d'aller voir ce spectacle-là pour comprendre des choses. Parfois, on ne se confronte pas exactement à tout ce dont on aurait besoin pour se poser les bonnes questions, parfois, dans la vie. Fait que j'espère qu'on va en parler beaucoup de ce spectacle-là, justement, parce que ça va pouvoir tomber dans les oreilles de certaines personnes qui n'iront pas voir le show, mais qui ont même des questions à se poser à la maison. Voilà.
Ben, allons-y avec la chronique livre. Tout me revient maintenant de Jean-Michel Fortier. Qu'est-ce que tu veux nous dire?
Oui, ben c'est ça. Je vais vous amener sur un livre plus léger, peut-être, pour vous mettre un peu de bonne humeur et tout ça. Jean-Michel Fortier, c'est le beau succès de la rentrée quand même. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il a fait la une du Fugue. Donc, c'est un livre qui a été remarqué. Un livre qui aurait pu s'adresser aux ados, mais qui s'adresse beaucoup aussi aux adultes. Je ne suis pas sûr que ceux qui ont moins de 20 ans comprennent toutes les références historiques dans ce livre-là, mais ça s'adresse donc quand même à tout le monde. Peut-être une écriture plus adolescente, mais qui va s'adresser beaucoup aux adultes. On nous amène en 2003 à Sainte-Foy. On va suivre l'histoire de Colin. Colin est en secondaire 5, qui va dans une école où presque tout le monde s'appelle Catherine ou Guillaume. Ça, j'ai vraiment trouvé ça très drôle. Je trouvais que ça manquait de Marie-Ève et d'Émilie, là, mais c'était quand même très drôle comme flash. Il passe son temps sur MSN avec son ami Eugénie. Il travaille un jour par semaine dans un magasin de bébelles. Il vend des pierrots. J'allais dire que c'est aussi le plus grand fan de Céline Dion, mais je sais que Safia est là aujourd'hui.
Ouais,
donc
wow.
Elle pourrait contester cette affirmation-là. Et Colin... depuis peu, il est en amour. Il a croisé Yann Moreau dans un party organisé par son frère dans une cage d'escalier. Et c'était deux minutes qui ont complètement bouleversé sa vie. Ça y est, il ne pense plus qu'à ça, même s'il continue quand même de penser beaucoup à Céline Dion. Mais là, à partir de là, il ne pense vraiment qu'à Yann Moreau, ce gars qu'il a croisé dans une cage d'escalier. Et là, il ne faut pas que j'aille beaucoup plus loin dans l'histoire parce que je vous volerais vraiment tout de suite beaucoup trop de punch.
On ne divulgage pas ici à l'heure où l'arc-en-ciel se lève.
On essaie, mais c'est ça, c'est vraiment un livre le fun parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'humour dans l'écriture. Il y a la nostalgie que nous, les plus vieux, on va apprécier. C'est vraiment là, les premières histoires d'amour d'adolescents, les particularités aussi des histoires gays. Là. C'est toute la naïveté de cet âge-là, là, le côté « Ah, mon Dieu, je n'aimerai plus jamais, jamais, jamais comme ça. » On salue Debbie Gibson et Foolish Beat. Il y a quelque chose de vraiment cute là, dans ce livre-là. Une ambiance à peu près comme dans Heartstopper, justement, là, où on sent les premiers émois et tout ça. Nous autres, comme adultes, on se dit « Ah, mon Dieu, il va y avoir un drame qui va arriver à un moment donné. » À un moment donné, je me suis rendu compte que j'attendais comme un drame. Je me disais « Mais pourquoi j'attends un drame? » C'est pas toujours obligé de finir mal. Les histoires d'amour, ça peut aussi bien se passer. Donc, une lecture vraiment très optimiste. C'est sûr que là, on parle d'adolescence. Il va à l'école. C'est sûr qu'il y a un peu il y a des petites mentions ici, là, sur l'intimidation, le fait d'être un gay dans une école secondaire, des choses comme ça qui sont pointées. Mais ce n'est pas le cœur du propos. On est plutôt dans vraiment une histoire d'amour adolescente très bien rendue. C'est très, très drôle. Je le faisais lire à mon copain hier qui lisait ça en riant à haute voix à tout moment. Donc, quelque chose de très, très, très intéressant. Donc, je me le disais, beaucoup d'humour, beaucoup d'amour et beaucoup aussi de Céline Dion dans ce livre publié chez La
Ah,
Mèche.
on l'aime
Oui,
Céline, mais on aime Safia beaucoup plus ici.
Oh, wow.
Oh,
mais on aime beaucoup La Mèche. Moi, c'est une maison d'édition que
oui.
j'affectionne particulièrement.
J'aimerais qu'on aille immédiatement et rapidement au. Parce qu'on a déjà interviewé Jordan, mais parlons de son livre Tu es l'ogre. Puis je pense que c'est un peu relié à ce qu'on va discuter après, oui.
Oui, ben c'est ça, un livre un peu plus chargé, celui-là. Je voulais en parler. Il est paru le printemps passé, mais je n'avais pas eu le temps d'en parler parce que la saison finissait trop vite. Mais un livre intéressant et utile aussi. On parlait tout à l'heure d'intimidation, de personnes qui ont des problèmes avec leur poids. Jordan Dupuis, on le connaît parce qu'on l'a vu beaucoup à la télévision, on l'a vu plus dans des chroniques. On l'a vu changer aussi sur nos yeux, donc on sait, puis il en a parlé beaucoup ici et là, des problèmes qu'il a eu avec son apparence. Là, il nous fait vraiment c'est un livre de chroniques où il se révèle vraiment beaucoup, beaucoup. Il va nous raconter des histoires, il va quand même assez très loin. Justement, au point où il est obligé de s'excuser à sa mère au début du livre en disant « Je m'excuse, maman, pour ce que tu vas lire dans ce livre-là, ça pourrait être dur pour toi. » On est vraiment dans son voyage intérieur. On se rend compte que oui, il y a les problèmes de poids, il y a l'intimidation qui va venir avec ça, mais c'est tout, c'est le package deal un peu de tout ce que c'est dans sa vie, d'avoir subi de l'intimidation, d'avoir intériorisé des choses, des petites choses qui sont devenues excessivement grandes. Il a aussi vécu des vrais traumatismes, des événements qui étaient beaucoup, beaucoup plus graves. C'est rien de terriblement nouveau, je vous dirais. On dirait qu'on a l'impression d'avoir déjà tout assimilé un peu ce bagage-là, parce que c'est des histoires dont on entend plus parler maintenant. Mais justement, comme je disais, par rapport à la pièce, d'en réentendre parler, de creuser plus, de se le faire remettre en dessous du nez, ça nous porte toujours plus à réfléchir. Certaines personnes ont des vies très difficiles et parce qu'elles vivent des choses dont on n'a pas toujours conscience. Donc, ce voyage-là, avec lui, maintenant, il a l'air d'aller mieux. Donc, c'est une lecture qui est intéressante beaucoup pour ça, pour le voyage, de se rendre compte que parfois les gens vivent des choses vraiment extrêmes qu'on ne soupçonne pas. Et c'est ce qu'il révèle dans ce livre-là de manière assez crûment parfois. Donc, c'est sûr que ça nous remet les idées en place. Il y a quelques chapitres où il donne la place à d'autres qui le félicite de tout le cheminement personnel qu'il a vécu. Ça, c'est un petit peu moins utile, mais en général, un livre vraiment à lire parce que ça remet beaucoup de choses en perspective. Ça s'appelait Tu es l'ogre. C'est paru chez Libre Expression le printemps passé.
Je pense que j'aimerais avoir une réaction parce que ça touche quand même quelque chose dont on a parlé, la grossophobie.
Ouais.
Comment lui il a subi une intervention, ce qu'il appelle le truc bariatrique,
Ouais.
là. Puis ça a été super compliqué. Puis pour le restant de ses jours, il reste avec des séquelles. Toi, là, quand tu entends ça, comment tu réagis, Safia, avec tout ce que tu as vécu? Je demandais aussi à Déby d'en parler. Ouais.
Ben moi, j'ai lu aucun des deux livres, malheureusement, mais je les ai notés dans ma tête. Mais ben c'est sûr que c'est difficile d'être gros dans la société. Puis, tu sais, pour moi, la grossophobie, c'est super important d'en parler parce que c'est comme si c'est un truc que les gens voient pas. Les
Oui.
gens comprennent pas que ça existe. Puis moi, je trouve que, tu sais, j'en ai vu des situations où est-ce que, mettons, le fait que le spectacle existe, mostly parce que je suis grosse quand tu y penses. Parce que oui, j'aurais reçu des messages horribles, sûrement, si j'étais juste arabe, poilue et lesbienne. Là, mais on s'entend que le fait que je sois une femme grosse, ça l'a vraiment. Ça fâche le monde. Puis, c'est ça. Moi, je comprends. J'aimerais bien qu'on en parle beaucoup plus parce que c'est
Puis
partout.
qu'on vous voit. Moi, j'avoue que. Ouais, encore, je ne veux pas trop divulgâcher, mais on voit quand même que vous êtes pratiquement nu sur scène. En fait, vous êtes
Ouais, on est
nu,
nus.
nu. Et. Puis moi, j'avoue, je n'ai pas trouvé ça choquant. Je fais ça. Ah, oh, mon Dieu, c'est-tu beau, finalement? Je ne sais pas comment tu réagis, toi, quand on a, tu sais, ce genre de situation de grossophobie qui fait que quelqu'un va risquer sa santé pour perdre du poids, là.
Ben, je trouve ça, c'est un sujet très délicat, mais en même temps. T'sais, évidemment, chaque personne le vit à sa façon, a sa relation avec son corps, avec son poids, mais tu sais, je veux dire, moi, je suis de plus en plus tannée d'être dans une société où on doit justifier et expliquer qu'on a juste le droit d'exister, tu sais. Je veux dire, c'est, tu sais, des silhouettes, là, on a toutes des silhouettes différentes
oui.
dès la naissance, tu sais. Je veux dire, être gros, c'est pas nécessaire, c'est pas une maladie, là, tu sais. Il y a quelque chose, je veux dire, moi, je pèserai jamais 120 livres, là. Puis il y a vraiment quelque chose où, des fois, je suis tannée de livrer ce combat-là puis de faire « Hey, on peut-tu juste vivre notre vie puis exister? Qu'est-ce que ça vous dérange? » Puis là, de voir qu'est-ce qui arrive avec Ozempic,
ouais.
avec tout ça, ça me fait capoter, tu sais. Ouais. Que là, je veux dire, il y a des diabétiques qui n'ont pas accès à leur Ozempic parce que là, les gens prennent ça pour maigrir. Puis c'est tout... Le problème, c'est la culture des diètes, là, dans le sens que ça fonctionne pas à 98%. C'est comme si Apple nous vendait des téléphones qui marchaient toutes pas à 98%, mais puis que si on leur dit « Hey, ça marche pas ton affaire », ils te font passer ça sur le dos, puis ils passent ça sur ta culpabilité, puis ils te font sentir que ben c'est ta faute parce que t'as triché, tu sais. Puis tu fais, c'est une industrie tellement lucrative,
ouais.
la culture de la diète, puis tu fais... Comment on continue de faire de l'argent à ça, à nos dépens, à ce point-là? Ça me fait un peu capoter.
Debbie vient de faire un premier « J'en peux plus », mais on va revenir à ça tout à l'heure. On y va.
Je me peux plus.
Je me peux plus.
Je me peux plus! Bon, je me peux plus. Ça, c'est nos coups de cœur. Fait que moi, je vais commencer par le mien.
Oui.
J'ai invité Antoine Charbonneau de Mers pour nous... Parce que j'aime beaucoup ce qu'il écrit.
Oui.
Je n'ai pas encore lu le dernier livre, Roman sans rien, mais ça s'en vient. Et tu as un spectacle à nous présenter. Puis je suis certain que ça va être bon. Donc, ça devenait mon coup de cœur.
Bon, ben tant mieux.
Je vais le voir la semaine prochaine.
Pour ta confiance.
Ouais. Alors, parle-nous de ton spectacle.
Alors, Mon serviteur, c'est un spectacle solo. Où on est deux sur scène.
C'est-à-dire solo, que... deux sur scène. Alors, faut que tu m'expliques ça.
Oui, voilà, je suis... c'est un monologue. Je suis seul sur scène, mais il y a avec moi mon serviteur qui sera traité comme un objet. Donc, il y en a deux présents sur scène, mais je dis que c'est un solo. Pour ce show-là, je voulais m'intéresser au concept de la servitude puis à comment ça se manifestait dans nos vies.
Ça me rappelle un peu Daddy, ça.
Oui, il y avait un peu de ça, mais c'est basé, encore une fois, bon, dans mon travail, je fais beaucoup d'autofiction, d'autobiographie. Puis ce travail-là est inspiré d'un moment de ma vie où je sentais que j'étais tellement à la merci de tout le monde autour de moi, même de mes amis, même des gens qui m'aimaient. J'étais comme une personne soumise, pas seulement sexuellement, comme j'ai pu l'explorer déjà, mais vraiment dans toutes les sphères de ma vie. Je me suis dit peut-être que j'ai besoin d'en guérir puis qu'il faut que je renverse ça. Donc là, il y a un lecteur qui m'a écrit pour me dire, moi, j'accepterai d'être ton serviteur.
Ah.
Donc j'ai dit, bien sûr. J'ai hésité,
wow.
mais donc, et ce que j'aborde dans cette pièce-là, c'est la relation avec cette personne-là qui n'était pas facile. Hein? C'est-à-dire qu'on ne change pas sa nature en claquant des doigts. Donc ça donne lieu à beaucoup de situations assez drôles. Mais... voilà.
Est-ce que je peux poser une question?
Oui.
Quand on dit « deviens ton serviteur », c'était comme à quel niveau? Ouais. Dans des trucs de la vie quotidienne, dans le rapport que vous aviez?
Oui, voilà, faire les tâches domestiques, okay. Donner des livres.
Okay.
Et c'est sûr que ça sous-entend aussi le jeu BDSM
oui.
Dominant-dominé, mais pas tant que ça.
Ça
c'est ça qui est intéressant.
C'était plus large que ça.
Oui, et même, c'était pas tellement ça, finalement. Puis dans la pièce, je joue beaucoup avec ça aussi. On se demande si on va aller là, mais finalement, on n'y va jamais. Mais c'est tout cet univers-là qui, pour moi, répondait comme à un besoin dans ma vie en général.
Reste avec nous. On a vraiment dépassé beaucoup le temps, fait que je voudrais passer à l'autre bout de l'orgnette. Allons-y.
J'en peux plus.
J'en peux plus.
J'en peux plus! Alors, c'est le temps des coups de gueule. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait faire un coup de gueule? Moi, toi, t'as fait le tien sur le Ozempic.
Oui, sans savoir que j'en faisais un, mais genre, oui, c'est ça.
Brian, t'avais-tu un petit coup de gueule à nous faire? Quelque chose? Non, je sais que Donald en a un.
Oui, moi, j'en ai un.
Ah.
C'est à propos d'Alain Delon.
Ah, mon Dieu, oui.
Alors, ce grand acteur français que tout le monde trouvait beau, trouvait charmant, qui a joué dans des films extraordinaires, Plein Soleil, qui était le premier film de Talented Mr. Ripley, qui a été repris par Matt Damon. Eh bien, il y a à peu près une dizaine d'années, à l'émission « C'est à vous », en France, il crachait au visage de tous son homophobie. Vous pouvez trouver ça sur YouTube, là. Ouais, c'est public.
C'est connu.
C'est connu. Alors, il a tenu des propos controversés à propos il a dit que c'était que c'était contre nature. Je suis désolé, c'est contre nature. On est là pour aimer une femme, pour courtiser une femme, pas pour draguer un mec ou se faire draguer par un mec. Et puis là, il a enchaîné sur l'adoption, affirmant que les homosexuels ne devraient pas, hommes ou femmes, ne devraient pas adopter d'enfants. Même sa fille était sur le plateau et n'en revenait pas des propos de son père. Donc, Alain Delon m'a vraiment déçu.
Je vais en rajouter, puis je vais faire ça rapide, parce que tu as d'autres choses à raconter. Mais moi, ce qui me fâchait, c'est qu'on a fait l'éloge de cet homme-là dans tous les médias, puis il n'y a personne qui a dit, comme il était mort maintenant, tout ce qu'il a dit de conneries, ça ne comptait pas. Puis qu'il était un supporter du Front National, etc.
Ben oui.
Il voulait se faire enterrer avec son chien. Mais il est encore en vie, son chien, puis sa famille a refusé, mais il voulait faire euthanasier son chien pour se faire enterrer avec.
Oh, quelle horreur.
C'est fou!
C'est tellement égocentrique.
Ça n'a pas de sens.
Wow.
Puis on va passer à ton bout de chronique. Ben oui, il te reste du temps. On a quelques minutes.
Un petit peu de temps. Oui. Ben, je voulais parler d'un artiste peintre québécois, montréalais, gay, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Yvon Goulet et que tu connais bien, puisque tu as travaillé avec lui.
Ben oui, il a fait une peinture de moi, oui.
Oui, et pas seulement
que
ça.
Que je peux pas montrer.
Ah non, que tu peux pas montrer, mais que j'ai vu. Chut, on le dira pas.
Oh, Seigneur, ça se confie ici à soi.
Il a travaillé aussi à ton roman, Le journal intime de Dominique Blondin, en l'illustrant de quelques dessins. Alors, Yvon Goulet, c'est un artiste qu'on pourrait qualifier de peintre recycleur. Il est né en 1956 à Québec. Peintre recycleur, alors il peint les symboles, les uniformes, les fantasmes qui sont propres à la culture gay. Il peint parfois sur des toiles, mais ceci est très intéressant. Il est aussi ce qu'on pourrait appeler donc un artiste recycleur, car il aime utiliser des matériaux de récupération comme support à expression de sa création. Il privilégie l'acrylique.
On a encore
un petit peu de temps.
50 secondes.
Il peint aussi sur des pancartes électorales. A-t-il le droit de faire ça, me demanderez-vous? Oui, puisque selon la loi électorale, les partis politiques ont 15 jours après le début du scrutin pour retirer leurs pancartes électorales. Alors après ça, ben, on peut en faire ce qu'on veut. Lui fait des œuvres là-dessus. Et si je ne m'abuse, il a fait un tableau de Saphir Melin.
Je crois que oui. On va aller vérifier ça.
Il a fait Ginette Renault, il a fait quelques artistes et je crois qu'il en a fait un de toi. Ce sera à vérifier.
Wow. Ben, je vous remercie tout le monde d'avoir participé à cet exercice-là. Merci. C'était l'épisode 83 de L'heure où l'arc-en-ciel se lève en ce 16 septembre 2024.